Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis de retour en ce 27 mars 2018. Merci à François Brodeur qui a été à la barre de cette émission hier 26 mars. En manchette aujourd'hui, obèse mais en santé. Les aînés particulièrement vulnérables à certaines fraudes. Une dame de 94 ans sauvée par la surveillance téléphonique. Droits des personnes handicapées, témoignage de l'experte qui avait sonné l'alarme. Et en entrevue, je reçois Marie-Ève Milo, co-autrice de la pièce « Chienne » et co-directrice artistique de la compagnie Le Théâtre de la Famille, pièce qui porte sur les troubles d'anxiété, et aussi Isabelle Molliette, coordonnatrice de l'organisme Pardi, parents pour la déficience intellectuelle, qui viendra nous présenter un guide juridique. Obèse mais en santé, c'est dans la presse.ca. Des chercheurs montréalais ont déterminé pourquoi certaines personnes obèses sont en bonne santé. C'est en raison d'une molécule qui favorise la croissance des vaisseaux sanguins dans la graisse. Leurs travaux pourraient mener à des traitements pour minimiser l'impact du surpoids. Les chercheurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont voulaient départager les deux principales théories expliquant le lien entre l'obésité et le syndrome métabolique, un trouble associé au diabète et aux maladies cardiovasculaires. L'une des théories est que trop de sucre cause des défaillances dans la capacité de l'organisme à répondre au sucre, explique Mike Sapia, biologiste à Maisonneuve-Rosemont et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Science Immunology. L'autre théorie, c'est qu'il y a trop d'inflammation chez les personnes obèses. Notre étude montre que ce ne sont pas toutes les sortes d'inflammations qui sont néfastes. Notre corps est aussi muni d'un système inflammatoire protecteur qui promeut l'expansion physiologique saine du tissu adipeux. Il y a une population de cellules immunitaires qui préparent le corps à avoir une expansion du tissu adipeux sans avoir les conséquences néfastes sur la tolérance au glucose et les autres complications associées au syndrome métabolique. Une des inspirations de cette étude a été de voir des gens ayant un surpoids courir un marathon, explique M. Sapia. Ils ont un bon niveau de cholestérol, une glycémie parfaite, une santé métabolique parfaite. Ils courent même mieux que certains qui ont physiquement plus l'air en santé. Sur le site courrierlaval.com, les aînés particulièrement vulnérables à certaines fraudes. Afin de prévenir l'exploitation financière des personnes âgées victimes de pressions extérieures, l'agente de police socio-communautaire Lynn Chartier débutera une campagne de sensibilisation du personnel bancaire en mai prochain, après avoir rejoint plus de 700 aînés depuis le début de mars, mois de la prévention de la fraude. La question est délicate, les employés d'institutions financières devant respecter une réserve quant aux opérations effectuées par leur clientèle. Ces personnes sont effectivement tenues à un certain secret professionnel, mais de plus en plus d'entre eux sont conscients qu'une personne âgée qui vient retirer 15 000 $, ce n'est pas nécessairement normal d'exprimer la policière. Nous voulons leur donner des outils. Ils peuvent notamment demander au client si tout va bien, d'autant plus si celui-ci montre de la nervosité. Dans un cas récent, un fils a fait prendre une hypothèque de 250 000 $ pour payer ses dettes de jeu, d'illustrer le lieutenant-détective aux crimes généraux François-Guy Delisle, spécialisé dans la fraude. Le garçon a gardé l'argent pour lui. Ces fraudes provenant de familles et proches représentent 15 % de nos dossiers. Cette nouvelle présentation au sujet de la fraude a aussi été conçue à l'intention des élèves des centres de formation professionnelle, âgés en moyenne de 17 à 25 ans, qui étudient en entrepreneuriat. Ce sont des futurs vendeurs, caissiers, commerçants, travailleurs autonomes, souligne l'agent Chartier. Ils auront à manipuler de l'argent, des cartes bancaires, cartes prépayées, faisant ainsi face à plusieurs types de vols et de fraudes. Et je m'entretiens maintenant avec Isabelle Molliette, coordonnatrice de l'organisme PARDI, PARDI pour Parents pour la déficience intellectuelle, anciennement l'ABDITED, une association qui regroupe des parents ou proches responsables de personnes qui présentent une déficience intellectuelle de l'île de Montréal, pour nous parler de JuriDoc, un guide juridique maintenant disponible en livre sonore. Bonjour, Madame Molliette.
Bonjour.
De quel besoin est né le guide de JuriDoc?
Écoutez, nous à PARDI, donc Parents pour la déficience intellectuelle, donc on est une association qui regroupe des parents et des proches, et nous on fait de la défense de droits collective et on fait de l'accompagnement individuel, et on a recensé les questions récurrentes que nous posaient les parents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un plan d'intervention? Qu'est-ce que sont le processus de plainte? À qui est-ce que je dois m'adresser pour faire une plainte? Donc, on a recensé toutes ces questions et on a travaillé avec une juriste qui s'appelle Aude Exertier, mm-hmm. et également avec le cabinet de Maître Jean-Pierre Ménard et Maître Jean-Pierre Ménard lui-même pour monter ce guide JuriDoc qui se veut un outil vulgarisé des principaux questionnements des parents avec des réponses simples qui peut également rejoindre des personnes avec une déficience intellectuelle légère.
Et quelles sont les principales questions des parents?
Écoutez, ça regroupe beaucoup ce qu'est le processus de plainte, parce que nous, en tant qu'association qui fait de la défense de droit, on accompagne les parents dans la création d'une plainte, dans le suivi d'une plainte. Donc, on parle beaucoup du commissaire local aux plaintes, du protecteur du citoyen, mais également de tout ce qui est la CAP, le comité des usagers, l'OPHQ, ainsi que les autres organismes qui peuvent accompagner les parents aussi dans comment faire une plainte et surtout comment faire revendiquer leurs droits.
Est-ce que c'est un guide qui est accessible, qui est facile à comprendre? Est-ce qu'on est dans le langage très hermétique qui concerne la loi?
Pas du tout, parce qu'on sait que la loi, ça peut être assez indigeste parfois. Oui. Et les parents qui en ont plein les bras et qui ont des questionnements relativement complexes n'ont pas du tout besoin d'être accompagnés avec un langage juridique soutenu.
Certainement pas.
Donc nous, on a fait justement pour que le maximum de personnes puissent se saisir de ce document un langage extrêmement clair, vulgarisé au possible, avec mm-hmm. énormément de capsules visuelles. Et puis, c'est un langage qu'on a voulu simple, mais accessible également en audio. Donc on a retranscrit ce guide.
Oui, depuis quand il est disponible? Depuis quand?
Il est disponible depuis le mois de février 2016.
Ah, ça fait quand même un petit bout de temps.
Oui. On l'a voulu au moment où on a sorti le guide version papier, version numérique et automatiquement en version aussi audio.
Est-ce qu'il y a une version qui est plus populaire qu'une autre?
Écoutez, la version numérique est très populaire. On l'a partagée énormément sur les réseaux sociaux. Ça a été partagé plus de 40 000 fois. Nous, ce qu'on veut, c'est que le guide passe de main en main à travers le Québec au complet. C'est mm-hmm. pas parce qu'on est une association montréalaise. On veut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'en saisir afin de mieux faire valoir leurs droits et surtout leurs droits de leurs enfants. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. On travaille beaucoup avec les comités d'usagers et puis le mouvement des fédérations des personnes d'abord. Donc, ça passe et puis ça voyage au Québec. Et c'est exactement ça qu'on voulait pour ce guide-là.
Et est-ce que vous avez fait des mises à jour depuis la première édition en 2016?
Non, il n'y a pas de mise à jour qui a été faite. Simplement qu'on a changé notre nom d'association. Donc, ça va être long à faire changer les versions numériques et papier. Mais au jour d'aujourd'hui, l'intégralité du contenu du guide qui était à jour en 2016 l'est tout autant en 2018.
Mm-hmm. Et la version, il y a une version en format PDF qui est disponible sur le site de l'ABDITED. C'est votre ancien nom, finalement.
Exactement. Donc, sur pardi.québec et abdited.com, on a justement, pour éviter de mêler les gens, gardé notre double nom au niveau des sites Internet pour que les gens puissent aussi s'habituer à notre nouveau nom et ne pas être perdus dans cette mise à jour. Vous la trouvez, la version, elle est entièrement gratuite. Donc, allez-y, téléchargez-la, faites-la connaître à vos proches, faites-la rayonner, c'est exactement pour ça qu'elle est là.
Et si il y a des personnes, vous me dites que le guide est très, très facile à comprendre, mais s'il y a quand même des personnes qui lisent et qui ont de la difficulté à comprendre le contenu, est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un?
Et vous pouvez communiquer avec nous, parce que nous, c'est ça qu'on fait au quotidien. Mes collègues et moi, on accompagne les parents à la fois dans les processus de plainte, mais il y a énormément de parents qui appellent pour discuter, pour clarifier certains points. Donc, on encourage l'ensemble des personnes qui se posent des questions à communiquer avec nous à Pardy, à notre numéro de téléphone que vous trouverez donc sur le site internet, mais vous pouvez communiquer avec nous par courriel. C'est nous qui nous adaptons pour rejoindre le plus facilement possible les parents qui en ont de toute façon plein les bras.
Oui, et en terminant, Madame Moliette, quelle est la différence entre un plan d'intervention et un plan de service individualisé?
Ben écoutez, le plan d'intervention, c'est un outil de planification qui est mis en place par un seul établissement. Versus un plan de service individualisé, c'est quand il y a plusieurs intervenants dans un dossier. Exemple, vous avez l'école, vous avez un organisme communautaire, vous avez un ergothérapeute et un physiothérapeute. Donc, il y a plusieurs intervenants qui ont besoin de se retrouver dans un outil commun et garder une trace de cet outil commun. Donc là, on parle de plan de service individualisé.
Parfait. Alors, un grand merci pour toutes ces explications bien claires. Puis, on va mettre la main ou écouter aussi le guide juridique Juridoc. Isabelle Moliette, coordonnatrice de l'organisme Pardy pour parents pour la déficience intellectuelle. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Vous aussi. Atteinte d'une mystérieuse maladie, elle attend un diagnostic, une nouvelle régionale pour amorcer ce bloc. Trouvée sur tvanouvelle.ca, une femme de 30 ans se sent prisonnière depuis plus d'un an d'une mystérieuse maladie. Malgré les dizaines d'examens subis et les médecins consultés, personne ne sait pourquoi son corps produit jusqu'à 2 litres d'eau par jour. L'an dernier, le Journal de Montréal avait rencontré la jeune femme alors qu'elle était clouée sur son lit de l'ancien hôpital Saint-Luc à Montréal pendant tout le temps des fêtes. En quelques semaines, la femme avait pris plus de 50 livres. « Je me suis mise à gonfler », raconte aujourd'hui en riant Mme Comtois. Mais à l'époque, elle avait été hospitalisée d'urgence quand tout son corps avait enflé à un point tel que ni ses souliers ni ses pantalons ne lui faisaient. Elle a quitté l'hôpital en janvier dernier, mais les médecins ignorent toujours quelle est sa maladie. De retour à la maison, elle prend des diurétiques pour évacuer chaque jour l'eau produite par son corps. Gastroscopie, colonoscopie, imagerie par résonance magnétique, scans mesurant l'activité des cellules et des organes de tout le corps n'ont pas permis d'élucider le mystère. « J'ai peur qu'on ne trouve jamais », confie-t-elle. « Les diurétiques, ce n'est pas une solution à long terme, car ce n'est pas bon pour les reins », ajoute-t-elle. L'an dernier, la femme de Juliette avait pris 50 livres quand elle s'est mise à enfler de partout. Sans un diagnostic précis, elle craint de toujours avoir comme une épée de Damoclès au-dessus d'elle. Elle redoute d'avoir de la difficulté à trouver une assurance vie, par exemple, et qu'elle soit très coûteuse. Dans le soleil, une dame de 94 ans sauvée par la surveillance téléphonique. Le programme de surveillance téléphonique à domicile PAIR, P-A-I-R, une initiative venant en aide aux personnes seules, handicapées, en manque d'autonomie ou aux prises avec une situation de détresse, vient tout juste de sauver une troisième vie, le 14 mars dernier, dans la région de Québec. Une dame de 94 ans, originaire de la capitale, n'a répondu à aucun appel des 3 appels réguliers de surveillance du programme ce jour-là, ce qui a aussitôt enclenché l'alarme et forcé l'arrivée rapide des premiers répondants. Ceux-ci ont trouvé la femme étendue au sol depuis au moins 3 heures, mais heureusement toujours consciente. Les ambulanciers ont immédiatement amené l'aîné à l'hôpital le plus près. Il s'agit d'un 3e sauvetage sur une période de 6 mois pour le jeune programme. Après le sauvetage inespéré de Colombe Vanier dans Sainte-Thérèse le 23 février dernier et celui d'un résident de Saint-Irénée dans la région de Charlevoix à la fin du mois d'octobre. Avec le vieillissement rapide de la population et de nombreux cas d'isolement et de personnes âgées vivant seules, le programme PAIR se veut une des solutions pour rester plus longtemps chez soi, conserver son autonomie, avoir de l'aide en cas d'urgence et apporter un soutien aux proches aidants ainsi qu'à leurs familles, explique le groupe dans un document envoyé aux médias lundi. Un abonnement massif au programme des personnes âgées, en perte d'autonomie surtout, figurait d'ailleurs comme principale recommandation du coroner Gauthier en juillet 2017. Le système d'accompagnement PAIR promet qu'il fonctionne 365 jours par année de 8 heures à minuit inclusivement. Thank you. Vous le savez, on en a parlé, c'est le 27 mars et c'est la Journée mondiale du théâtre. Et on en parle de théâtre, de la pièce Chienne, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars. Il y a même des supplémentaires ajoutés jusqu'au 7 avril. C'est à la salle Jean-Claude Germain. On en parle avec la co-autrice de la pièce, co-fondatrice et co-directrice artistique de la compagnie Le Théâtre de la Famille, Marie-Ève Milot. Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Et bonne Journée mondiale du théâtre.
Merci beaucoup.
Allez-vous fêter ça particulièrement?
Ben, je vais voir la pièce ce soir.
Ah
alors,
oui?
Oui.
Pour la première fois?
Non, pas du tout. Pas pour la première fois, mais comme je suis metteur en scène du spectacle, je n'y suis pas tous les soirs, mais ce soir, j'y serai.
Bon, alors, c'est la meilleure façon de célébrer le théâtre. Pourquoi vous avez décidé de créer une pièce qui traite de la peur des troubles anxieux?
Parce que déjà, en ce moment, dans le monde, près de 350 millions d'humains qui en souffrent.
Oh.
Donc, pour cette raison-là, et aussi parce que c'est un sujet qui me bouleverse.
Ouais.
C'est pour ça qu'on a décidé, Marie-Claude et moi, d'investir la peur.
Et quelle approche avez-vous privilégiée pour mettre en scène cette pièce, pour écrire cette pièce?
Enfin, on a commencé à écrire cette pièce-là il y a 4 ans. Donc, il y a eu beaucoup de recherches et de documentation autour de ça. Au départ, d'un point de vue plus sensible, en se partageant, elle et moi, nos propres expériences. Et aussi, après ça, on a élargi ça à notre entourage. Et on s'est beaucoup aussi intéressé d'un point de vue plus scientifique à la question. Donc, on est allé à l'Institut du stress humain, qui est basé à Montréal.
Mm-hmm.
Et on a rencontré Catherine Raymond, qui est une chercheure. Et on a donc élargi le spectre de nos recherches à un point de vue plus scientifique. Puis après ça, on a essayé de dresser un... Oui, allô?
Oui, je vous écoute.
Ah, OK, d'accord. Et après ça, on a essayé de dresser un portrait social de ça.
Alors, ça doit être extrêmement riche parce que ça part du personnel, il y a du scientifique, de l'universel. Est-ce que ça a été compliqué à inventer, à mettre sur pied?
Compliqué, non. C'est tellement... C'est tellement galvanisant d'écrire que non. Ceci étant dit, on a choisi de vraiment prendre notre temps
oui.
pour le faire. On n'a pas eu envie d'écrire vite parce que la pièce parle aussi de quelqu'un qui vit une épreuve anxieuse et qui décide de s'enfermer chez elle, ce qui peut, d'un premier coup d'œil, avoir l'air symptomatique de quelqu'un de dépressif et d'anxieux, ce qui est aussi le cas.
Mm-hmm.
Mais c'est aussi un acte de résistance parce que je trouve qu'on vit dans une société qui nous oblige et qui nous force à aller mieux très, très vite.
C'est vrai, il y a une pression.
Donc, mm-hmm. Oui, une pression sociale, que ce soit de notre réseau social, familial, professionnel. Donc, on a choisi d'écrire très lentement pour vraiment respecter notre sujet.
Oui. Et parlez-nous de la distribution, Marie-Ève Milot.
Oui, Marie-Claude Saint-Laurent, qui est aussi la co-autrice de la pièce, joue le personnage de la trentenaire, ce personnage qui décide de s'enfermer le jour de ses 30 ans. Donc, autour d'elle gravitent des personnages qui semblent, selon son point de vue, avoir des meilleures raisons qu'elle d'avoir peur. Il y a Louise Cardinal, Alexandre Bergeron, Richard Fréchette, Nathalie Doumar, Larissa Corriveau, qui jouent de multiples personnages.
Alors, il y a des hommes, il y a des femmes.
Oui.
Et dans votre recherche, est-ce que vous avez, exploré si les femmes avaient plus tendance à développer des troubles anxieux que les hommes?
Oui, exactement. En fait, c'est que dans nos recherches, on s'est rendu compte que 2 fois plus de femmes étaient sujettes.
Deux fois plus?
Sujettes.
Oui, deux fois plus.
Ouais, exactement. À développer des troubles anxieux. Et en fait, ça a été vraiment la genèse de notre écriture. C'est vraiment à partir de cette réflexion-là qu'on a décidé de démultiplier les raisons pour lesquelles les femmes sont 2 fois plus sujettes que les hommes à développer des troubles anxieux. Ceci étant dit, c'est un c'est un mal universel qui touche autant les hommes que les femmes. On s'est aussi rendu compte dans nos recherches que c'est souvent la réponse au stress qui est différente. Alors,
Comment le public reçoit votre pièce? Est-ce qu'ils sont complètement angoissés tout du long? Ou...
Les réactions sont diverses. C'est sûr qu'on accompagne, la pièce dure près d'1h40. On accompagne vraiment un personnage. C'est vraiment une immersion, je dirais une immersion poétique dans une épreuve anxieuse. Donc, c'est sûr que c'est pas juste, on va pas juste se faire raconter une histoire. On va vivre aussi une expérience sensible. Donc, les réactions sont diverses, mais on a eu une très belle rencontre avec le public la semaine dernière, qui a suscité de très beaux échanges, même des témoignages. Alors, je pense que l'expérience est intéressante en tout cas.
Oui, et pour avoir entendu quelques extraits, j'ai quand même perçu, décelé qu'il y avait de l'humour dans le traitement.
Bien sûr. Oui, c'est sûr. Je pense aussi qu'on a tendance à, dès qu'il y a un diagnostic de poser sur un individu, c'est comme si tout d'un coup, on ne devient que ce diagnostic, alors que la vie est beaucoup plus complexe. Et c'est pas parce qu'on vit une épreuve anxieuse ou dépressive qu'il n'y a pas parfois des petits rayons de lumière.
Tout à fait.
Il y en a dans la pièce, par l'humour, par l'art, et voilà.
Et je vais terminer, Marie-Ève, en lisant un extrait de la critique de Christian Saint-Pierre dans Le Devoir, qui est publié sur le site du Centre du théâtre d'aujourd'hui. Le spectacle, dont on oserait dire qu'il cristallise le renouveau du théâtre féministe québécois, est un vibrant hommage à l'art, à commencer par celui des femmes, moyen par excellence de tout remettre en cause, de tout virer à l'envers, de passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, de l'enfermement à la liberté. Alors, c'est inspirant, ça.
C'est très inspirant. C'est une critique très touchante. Pour Marc-Claude et moi, pour la compagnie, pour le spectacle. Ça donne une belle tape dans le dos pour continuer le travail.
Alors, continuer, puis Chienne au pluriel est présenté, je le rappelle, au Centre du théâtre d'aujourd'hui avec un très bon succès jusqu'au 31 mars. Et ça se poursuit avec des supplémentaires. Il y en aura d'autres, j'en suis convaincue. C'est jusqu'au 7 avril.
Merci. Exactement, oui.
Merci pour cette entrevue et merci pour cette pièce. Encore une fois, bonne journée mondiale du théâtre. Marie-Ève Milo.
Merci beaucoup.
Salut bien.
Au revoir.
Place réservée aux personnes handicapées, le stationnement illicite en hausse, c'est dans le quotidien.lu. Nombreux sont encore les automobilistes valides à ne pas avoir de scrupules à se garer sur les places de parking réservées aux personnes handicapées. Depuis 2 ans, les infractions sont en hausse au Luxembourg. Si le ministère du Développement durable et des infrastructures ne dispose pas du nombre exact d'emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite dans le pays, il connaît en revanche celui des infractions liées au stationnement illicite. Lundi, dans une réponse aux députés Lex Delès et Gusti Graas, le ministre François Bauche a tout d'abord précisé que jusqu'au 14 mai 2016, le code d'infraction afférent regroupait sans distinction tous les stationnements sur des places réservées. Le stationnement illicite sur ces places réservées devait être spécifiquement mentionné. Ainsi, du 1er janvier au 14 mai 2016, 1348 infractions ont été relevées. À partir du 15 mai, le code d'infraction spécifique avec avertissement taxé de 145 € a été introduit et au 31 décembre, 2436 amendes ont été émises, soit un total de 3784 pour 2016. En 2017, 3879 infractions ont été comptabilisées. Autour de l'hôpital Charles-Lemoyne et de l'Institut Nazareth et Louis Braille de recevoir des octrois. Le dernier arrêt de la tournée Opération Enfant-Soleil avait lieu mercredi 21 mars dernier à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Durant la conférence de presse animée par Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, L'Institut Nazareth et Louis Braille s'est vu remettre un montant de 7 610 $ pour l'achat de 15 chartes de mesure d'acuité. Ces équipements serviront à évaluer avec une grande précision les aptitudes visuelles des enfants avec ou sans handicap associé. Ensuite, l'hôpital Charlemagne a reçu un octroi de 13 709 $ qui servira à acheter un tire-lait, un chariot pédiatrique de réanimation ainsi qu'une table d'examen pédiatrique. L'auteur d'une étude sur l'institutionnalisation des personnes handicapées intellectuelles en Nouvelle-Écosse estime que les droits des patients sont bafoués et juge que ces personnes sont incarcérées par la province. Une enquête de la Commission des droits de la personne qui a débuté en février à Halifax cherche à déterminer si la Nouvelle-Écosse a contrevenu aux droits de Beth McLean, Joseph Delaney et Sheila Livingston en les hébergeant dans des institutions psychiatriques durant des années plutôt que de leur trouver une place dans un foyer de soins dans la communauté. Dorothy Griffith a témoigné par vidéoconférence, experte des soins aux personnes ayant reçu un double diagnostic de handicap intellectuel et de maladie mentale. Elle a été consultante durant le processus de fermeture d'institutions psychiatriques en Ontario et de transfert des patients vers des foyers de soins. Selon la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, 82 personnes sur les 270 hébergées dans des institutions à travers la province ne requièrent plus une hospitalisation et attendent d'être accueillis par un foyer de soins établi dans la communauté. C'est tout pour les paractualités du 27 mars 2018. Merci à mes invités, Isabelle Molliette, coordonnatrice de l'organisme PARDI pour parents pour la déficience intellectuelle, qui nous parlait du guide juridique JuriDoc, disponible en livre sonore depuis quelques années, depuis 2016, et aussi Marie-Ève Milo, co-autrice de la pièce Chienne et co-directrice artistique de la compagnie Le Théâtre de la Famille. La pièce est présentée au Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. À demain.